Vous écoutez
RMC.
RMC Bourdin Direct.
Jean-Jacques Bourdin.
Matin, l'historien, écrivain Camille Pascal, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Je suis très heureux de vous recevoir. D'abord parce que on va parler d'histoire, l'histoire contemporaine, et puis l'autre histoire, l'histoire d'avant. Camille Pascal, 2018, l'été des quatre rois, votre premier roman, Grand Prix du roman de l'Académie française, un livre qui s'est vendu, je crois, 150 000 exemplaires, un énorme succès. Vous préparez un prochain livre qui sortira fin août, qui s'appelle La Chambre des Dupes. Je n'en dis pas plus.
Aucun lien avec l'histoire contemporaine.
La Chambre des Dupes. Aucun lien. Hein.
Aucun.
Non, c'est Louis XV, je crois. Bon, d'accord. Bon.
Mais quoique.
Quoique. Alors, c'est intéressant de vous recevoir pour plusieurs raisons. D'abord, parce que vous êtes historien, vous regardez l'histoire contemporaine, je l'ai dit. Ensuite, parce que vous êtes très proche de Jean Castex, le nouveau Premier ministre. Et enfin, parce que vous avez travaillé avec Nicolas Sarkozy, avec lequel vous êtes aussi très ami.
Oui.
Donc, ça fait beaucoup de liens, ça.
Ça fait quelques liens.
Nouveau gouvernement. Est-ce que vous êtes étonné?
Alors,
par...
je voudrais juste vous dire
alors,
une chose.
Alors, allez-y.
Vous avez la gentillesse de m'avoir invité, de m'avoir appelé.
Oui.
Et donc, je suis sur votre plateau. Et je suis un peu comme le doge de Gênes. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire.
Oui.
Hein,
non, allez-y, que, allez-y.
En effet, le doge de Gênes, il n'avait pas le droit de sortir de la ville de Gênes. Il restait dans la ville de Gênes. Et puis, un jour, il est invité par Louis XIV. Alors, il réunit son conseil. Il dit, est-ce que je vais pouvoir me rendre à Versailles? On lui dit, Louis XIV, le roi de France, ça ne se refuse pas. C'est comme Jean-Jacques Bourdin, ça ne se refuse pas. Et alors donc, quand il arrive à Versailles, on lui fait visiter la Galerie des Glaces, les jardins, et puis les courtisans sont très intrigués et le regardent, ils disent, mais monsieur le doge, qu'est-ce qui vous étonne le plus à Versailles? Il a cette formule que j'adore et qui correspond un peu à mon sentiment. Il dit, ce qui m'étonne le plus à Versailles, mais monsieur, c'est de m'y voir. Voilà. Donc ce qui me surprend le plus ce matin, c'est d'être votre invité. Mais j'en suis heureux.
Mais non, non, mais moi aussi, je suis très heureux de vous voir là. Camille Pascal, donc, ce nouveau gouvernement, vous connaissez bien Jean Castex, le nouveau Premier ministre. Ce nouveau gouvernement vous surprend ou pas? La composition de ce gouvernement?
Alors, plusieurs choses. La première, je suis très heureux pour lui, parce que c'est un ami, et pour le pays, de voir Jean Castex à la tête du gouvernement. Voilà. Je connais Jean depuis une dizaine d'années, nous nous sommes rencontrés à l'Élysée, il se trouve que nous avions les bureaux mitoyens au palais d'Élysée au-dessus des appartements présidentiels.
Sous la présidence de Nicolas Sarkozy.
Tout à fait, il était d'abord conseiller social, ce qui est très important hein, pour le personnage. Hein. Et puis ensuite, il est devenu secrétaire général adjoint. Alors, il a changé de bureau, mais simplement, nous étions toujours sur le même couloir.
Oui.
Et donc, on a créé... Nous sommes tous les deux des méridionaux.
Oui.
Donc, c'est peut-être ce qui a...
Vous êtes Montpellierin.
Je suis Montpellierin. Et lui, il est du Gers. Et puis, il est catalan par sa femme. Et donc, le lien a toujours... Tout de suite, c'est fait. Et puis, j'ai beaucoup apprécié cet homme parce que je l'ai apprécié dans la façon dont il travaillait. C'est un énorme travailleur. Mais en même temps, l'expression maintenant est devenue proverbiale, en même temps, le vendredi, comme il devait rentrer chez lui à Prades...
dans les Pyrénées-Orientales.
Voilà, il ne fallait pas non plus trop traîner. Voilà. Et donc, c'est quelqu'un d'efficace.
C'est quelqu'un d'efficace. Je vais revenir sur la personnalité de Jean Castex, mais le gouvernement, la composition du gouvernement, quand on voit Éric Dupond-Moretti, par exemple, qui devient garde des Sceaux, ça vous a surpris? Franchement.
Ah oui, ça c'est une surprise.
Vous le connaissez?
Un peu, mais pas...
Ça vous a surpris?
Ah oui. Oui, je pense que ça a aussi...
Vous imaginez les deux hommes, Jean Castex et Éric Dupond-Moretti?
Ah oui, mais ce sont deux personnalités totalement opposées.
Oui.
Mais il y a chez Jean une autorité naturelle qui, je pense, devrait en imposer à un homme même aussi éruptif que Monsieur Dupont, Maître Dupond-Moretti.
Bon.
Mais ceux les plus surpris ce matin, je crois que ce sont les magistrats.
Bon, Gérald, oui. Je vois votre sourire. Hein. Gérald Darmanin.
Le vôtre.
Oui, le mien aussi. Gérald Darmanin, qui est ministre de l'Intérieur. Gérald Darmanin, c'est il a un mentor, c'est Nicolas Sarkozy en politique. Donc, il est ministre de l'Intérieur. Nicolas Sarkozy a été ministre de l'Intérieur. Ça a beaucoup compté pour lui. Gérald Darmanin est ministre de l'Intérieur. Est-ce Nicolas Sarkozy qui est derrière cette nomination?
Alors, tout le monde me dit... que c'est un gouvernement sarkozyste.
Oui.
Alors moi, je vais vous surprendre. Je pense que c'est un gouvernement chevènementiste. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce qu'il y a une interview qui a été publiée par Jean-Pierre Chevènement. Si je ne m'abuse de mémoire, c'est tout début avril. Jean-Pierre Chevènement est un homme politique dont tout le monde a toujours salué l'indépendance, la force de caractère et la vision politique, qui appelait à un gouvernement d'union nationale. Eh bien, si vous regardez, nous n'en sommes pas très loin. Et donc, sarkozyste, peut-être, parce qu'il y a évidemment des personnalités très proches de Sarkozy. En tout cas, une chose que Macron aura réussi avec Jean, c'est de réunir quasiment tous les courants de la droite. Écoutez, il y a quasiment tous les candidats aux primaires de 2016 qui sont représentés. Vous avez, bon, j'allais dire des lemairistes, enfin en tout cas il y en avait un, c'était Bruno Le Maire, le premier lemairiste. Bon, vous avez des sarkozistes, vous avez des fillonistes, vous avez des juppéistes. Ouais. Donc déjà, ça c'est une première chose. On voit bien, alors même si, attention, ils ne sont pas mandatés par le parti LR, mais ça... C'est quand même très important. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une ligne qui l'a emporté sur l'autre. Et en tout cas, vous avez...
Mais c'est un gouvernement de centre-droit, alors, Camille Pascal.
Tout à fait. Tout à fait. Avec des personnalités de gauche, avec des personnalités socialistes. Oui. Monsieur Le Drian, que je sache, est un socialiste. Madame Pompili est une femme dont, je crois, tout le monde reconnaît l'engagement politique chez les Verts. Donc, à part les extrêmes...
Oui.
Même si, encore une fois, ça ne s'est pas noué avec une négociation de parti, je pense que nous approchons d'un gouvernement d'union nationale.
D'union nationale avec quand même Jean Castex, est un homme de droite.
Oui, Jean est un homme de droite, alors je crois qu'il ne l'a jamais nié. Vous savez, quand il a préempté avec bonheur, je crois, l'expression de gaullisme social.
Oui.
Qu'est-ce que c'est que le gaullisme social ? Aujourd'hui, ne nous racontons pas d'histoire. De Gaulle est très loin, c'est une statue, peut-être qu'un jour on va la repeindre en rouge, mais enfin, en tout cas, c'est une statue du commandeur, tout le monde s'en réclame, mais plus personne ne sait exactement, à part des gens qui ont plus de 60 ans, ce qu'est le gaullisme. Mais le gaullisme social, je crois que ça parle à l'inconscient collectif très vite, parce que le gaullisme, c'est l'ordre et l'autorité. C'est l'homme qui a rétabli l'ordre, soyons clairs, après bon. Et social, ça veut dire proche du peuple et notamment des ouvriers. Voilà, donc des travailleurs. Et ça ne veut pas dire que c'est de gauche, ça veut dire qu'il y a un souci de participation, de respect. S'il y a une chose dont Jean est totalement, s'il y a quelque chose qui chez Jean est totalement exclu, c'est le mépris. Cet homme, on sait que même sans le vouloir, des hauts fonctionnaires, des hommes politiques peuvent exprimer sans y prendre garde une sorte de mépris à l'égard du peuple. Jean, c'est tout sauf ça. Et je pense que quand il parle de gaullisme social, c'est attention aux classes populaires, attention à la jeunesse, attention aux ouvriers, attention aux travailleurs. Ça,
attention aux ouvriers, attention aux travailleurs, attention aux classes sociales qui souffrent, on est bien d'accord. Enfin, il va falloir le montrer. Il y a de grandes réformes. La réforme des retraites, il veut la conduire. Alors que les syndicats déjà disent non.
Oui. Ça va être très important ce qui va se passer là.
Et oui.
Vous m'entraînez évidemment sur un terrain, et c'est normal qu'il est compliqué pour moi de suivre parce que.
Oui.
Puisque je ne suis pas membre du gouvernement,
mais oui.
Je ne suis pas mandaté,
non.
Je
ne
suis pas porte-parole, donc et pour vous être très clair...
Mais vous connaissez la pensée,
je n'ai
mais
pas
vous
connaissez. Toutes les cartes en main, donc soyons très clairs, et je ne vais pas vous raconter la bonne aventure. Donc, simplement, il y a une négociation qui est fondamentale, qui va commencer là, c'est en effet, entre Jean Castex... et les représentants syndicaux, la question des retraites. Qui fait un pas, Et une fois, et d'ailleurs, on voit bien qu'il prend à bras-le-corps cette question,
tout de suite.
Parce qu'il sait que tout va dépendre de cette négociation.
Oui.
Parce qu'une fois que cette négociation sera bouclée, qu'il y aura un accord, on pourra penser à la suite, au plan de relance. Et voyez, chez Jean, il met... Comme les gens assez simples, il met toujours un pied devant l'autre.
Hein. Oui.
Et voilà. Et c'est le pas de deux ou le quadrille.
Et il prend les choses à bras le corps tout de suite. On parle beaucoup des 100 jours du président de la République. Là, ce sont les 100 jours du Premier ministre.
Je pense qu'il a moins de 100 jours.
Il a moins de 100 jours.
Sincèrement, il a moins de 100 jours. Alors, il a un atout formidable, c'est son don de la négociation. Mais surtout, il connaît tout le monde. C'est-à-dire que quand vous avez été directeur de cabinet du ministre des Affaires sociales, à l'époque Xavier Bertrand, lorsque vous avez été le conseiller social de Nicolas Sarkozy, lorsque vous avez été le secrétaire général adjoint en charge des affaires sociales de Nicolas Sarkozy, lorsque, par ailleurs, vous avez conduit une vie d'élu local, je pense qu'il a le portable de tous les grands responsables syndicaux.
Est-ce que une petite parenthèse autour de Nicolas Sarkozy, est-ce que Nicolas Sarkozy se réjouit d'être si influent auprès d'Emmanuel Macron? Bonne question.
Alors,
Camille,
j'ai pas l'habitude de trahir mes conversations avec Nicolas Sarkozy, mais je vais vous faire une confidence.
Allez-y.
Je l'ai eu hier soir.
Oui.
Je lui ai envoyé un petit mot, comme nous le faisons souvent, en lui disant: Monsieur le Président, quand même, je suis étonné que personne ne m'ait prévenu que vous étiez revenu. Je me rappelle tout de suite. Il dit: Camille, arrêtez de dire que c'est sarkozyste, c'est pas vrai. Simplement, je suis très content pour Jean. Je suis très content pour Jean, vous savez pourquoi? Parce que c'est quelqu'un de bien. Et je suis très content pour le pays, vous savez pourquoi? Parce que maintenant il est dans de bonnes mains. Il me dit: qu'est-ce que vous faites demain? Alors, parce que c'est toujours sa question. Alors, je dis: je vais chez Jean-Jacques Bourdin. Silence. Elle me dit: c'est la gloire alors, bonne nuit.
Voilà. Je l'attends d'ailleurs, mais bon, il faut qu'on se rencontre d'ailleurs un jour ou l'autre. Bien, Jean Castex, un exécutant ou pas? Il a tenu tout de suite à préciser les choses, parce que pour l'instant, nous n'avons pas parlé d'Emmanuel Macron, vous l'avez remarqué.
Oui, alors,
mot d'Emmanuel Macron.
Je connais beaucoup moins Emmanuel Macron que Nicolas Sarkozy. Je connais même pas du tout, je crois que nous ne sommes jamais rencontrés.
Jamais.
C'est assez clair.
Et Jean Castex va devoir tout le monde dit, il est là pour appliquer strictement ce que va décider Emmanuel Macron.
Bon, alors d'abord, nous sommes sous la Ve République.
Oui.
Et nous sommes sous la Ve République, transformée par le quinquennat. Moi, j'ai toujours été contre cette idée de quinquennat. Mais bon, j'étais un des rares à l'époque, et puis ma voix comptait pour rien, c'est pas normal. Donc, dans ce cadre-là, il est vrai que le pouvoir du président de la République, dans cet équilibre exécutif, est très renforcé. Moi, je suis convaincu, parce que j'ai toujours vu faire Jean avec Nicolas Sarkozy. Bon. D'abord, je l'ai toujours entendu dire la vérité, même dans les moments les plus difficiles. Et vous savez, quand vous avez été à l'Élysée entre 2010 et 2012, c'était pas la fiesta.
Cette vérité dite à Nicolas Sarkozy.
Oui, à Nicolas Sarkozy. Il disait toujours les choses avec beaucoup de respect,
oui,
beaucoup de fermeté et beaucoup de vérité. Et en règle générale, il emportait le morceau.
Il emportait le morceau.
Oui.
Il arrivait à convaincre.
Oui,
il va arriver à convaincre Emmanuel Macron.
D'abord, je suis convaincu que tout ça n'est quand même pas, même si c'est un coup politique majeur, on peut dire ça.
C'est un coup politique majeur.
Ah oui,
pour
c'est
vous.
Un coup politique majeur, oui.
Pourquoi?
C'est un coup politique majeur parce que, comme on l'a dit, c'est quand même rassembler innocemment la droite et le centre-droit.
Oui.
Ça affaiblit quand même un certain nombre de candidatures à droite, il ne faut pas se leurrer, qui étaient tout à fait légitimes et qui continuent à l'être d'ailleurs, mais qui vont être rendues plus difficiles. Et puis, ça casse un peu l'image, j'allais dire, pour pas être désagréable, stratosphérique du président de la République, et qui était aussi, malgré tout, un peu celle d'Édouard Philippe, c'est-à-dire Paris qui regarde la province, même si tout ça est souvent injuste, mais enfin bon, c'était tel que c'était perçu. Et là, c'est vraiment une main tendue à la France oubliée, à cette France qu'on dit alors ou profonde, ou périphérique. Bon, mais cette France qui est la France, voilà, c'est-à-dire tout ce qui va au-delà du périphérique.
Bon, je vais parler de cette France que l'on aime, que Jean Castex aime, mais que
et
j'aime.
Qu'il connaît.
Cette France, et qu'il connaît.
Vous savez, pardon de vous dire ça.
Oui.
Nous vivons à peu près dans le même bocal.
Oui. Bon.
Vous savez très bien qu'aujourd'hui, nous avons un problème d'élite qui se sont déconnectées. Quelle que soit leur origine d'ailleurs. Mmh. Elles peuvent avoir d'être d'origine très bourgeoise ou très populaire. C'est pareil. C'est que tout le monde se promène à scooter. C'est-à-dire que plus personne dans Paris ne prend le métro, le RER ou le
personne.
Bus.
Ceux qui vont travailler à 5h du matin ou à 6h...
Je parle des gens qui sont dans les élites.
D'accord.
Je parle des élites.
D'accord.
C'est ce que j'appelle les élites à scooter.
Oui.
Donc, et qui ne traversent le périphérique que pour aller à Roissy prendre un avion pour la Tanzanie. Voilà. Ça, c'est un drame. Parce que ces élites, qu'elles soient médiatiques, culturelles, politiques, ont perdu le lien avec le peuple.
Oui.
Et ça, le peuple l'a ressenti.
Oui.
Vous comprenez? Si aujourd'hui, si vous allez les vacances de Noël... ou ou de Pâques, qui sont des vacances familiales, au lieu d'aller les passer dans votre famille, dans le Midi, en Bretagne, en Normandie ou en Alsace, vous allez les passer en Thaïlande, et vous pouvez plus avoir le lien avec le pays. Et ce divorce-là, ce divorce géographique, ce divorce social, il est tragique. Parce que dans l'histoire de France, le peuple a toujours eu besoin de ses élites pour communiquer avec le pouvoir.
Mais que vous disait Jean Castex à propos des Gilets jaunes? Tiens, par exemple, vous avez parlé de ça avec lui, vous êtes très ami, très proche.
Mais il m'a dit
lui, à Prades, il en a eu des Gilets jaunes sur ses ronds-points dans les Pyrénées-Orientales.
Quand la première fois qu'on m'a interrogé sur Jean Castex, c'était au moment où il a été, nommé monsieur déconfinement.
Oui.
Bon, et quelqu'un s'est souvenu que je le connaissais, donc j'ai reçu. J'étais plus habitué à recevoir beaucoup de coups de fil de journalistes. Moi, j'étais un peu sur le banc de touche. Mais donc on me dit, mais qu'est-ce que vous diriez de Jean Castex ? Ben, je dirais, écoutez, deux choses. Un, il a pas découvert les gilets jaunes en ouvrant les fenêtres de sa chambre du 7e arrondissement. Il vit au milieu d'eux. Lui, il sait ce que c'est pour quelqu'un qui travaille d'être limité à 80 km/h. Lui, il sait ce que c'est pour un couple d'agriculteurs retraités d'entendre à la radio un homme politique dire, vous savez, dans 5 ans, il n'y aura plus de chauffage au fioul. Parce qu'un couple de retraités agriculteurs, ce couple-là, qu'est-ce qu'il attend? Ben, que sa chaudière au fioul, elle tienne tout autant qu'eux. Non. Voilà. Et qu'ils aient pas à la changer. Alors on dit, oui, on va vous donner 4000 euros. Oui, mais c'est bien gentil, mais la chaudière, elle en vaut 6000. Donc, ça, il le sait. Parce que, une anecdote. Lorsque nous étions ensemble à l'Élysée, bon, il arrive qu'à un moment donné, vous êtes au milieu des dossiers, vous avez les coups de fil du président, les ministres, etc. Bon, vous êtes un peu occupé. Puis, de temps en temps, vous avez envie de souffler. Donc, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous allez à la machine à café et vous passez dans le bureau du voisin qui est un copain. Donc, je tape à sa porte. Il me dit rentre. Et il est 19h, 19h30. Et il est au téléphone.
Oui.
Je sors. Moi, surtout à l'Élysée, vous ne restez pas quand quelqu'un téléphone pour des raisons de confidentialité et de pure courtoisie. Il dit non, reste, j'en ai pour 2 minutes. Et il commence à parler. Alors bon, j'entends, j'écoute pas, mais j'entends. De pavés, de trottoirs, de pancartes avec les menus et tout. Mais je dis, bon. Alors, il raccroche. Moi, je reste de marbre parce que je ne veux pas avoir l'impression de donner l'impression que j'ai espionné. Il me dit, écoute, je suis désolé, j'étais en train de voir avec la dame qui a la pizzeria de la place du village à Prades si elle pouvait ou non mettre sa pancarte avec les menus sur le domaine public et pas sur le trottoir. Je dis, c'est toi qui t'occupes de ça? Éberlué, parce que il me dit, je m'occupe de tout et c'est normal, j'ai juré aux habitants de Prades que venir à l'Élysée ne m'empêcherait pas d'avoir un lien direct avec eux. Donc il avait ce lien, sincèrement, qui aurait pu être, et cette question aurait pu être réglée par un adjoint.
Mais est-ce qu'il a la fibre écologique? Parce qu'on dit, il avait un candidat écologiste contre lui à Prades, on dit qu'il n'est pas très écologiste.
Il est écologiste,
pas trop écologiste timidement.
Moi, je ne sais pas, je ne veux pas m'engager pour lui, mais disons qu'il est écologiste comme le milieu rural, les écologistes, si vous voyez ce que je veux dire.
Il est là dans la même optique, même idée.
Donc je pense qu'il a compris le message qui a été envoyé par certains électeurs. Il ne faut pas non plus surinterpréter le résultat du deuxième tour des municipales. Il y a quand même beaucoup de trompe-l'œil dans tout ça. Mais enfin bon, le fait est qu'il y a quand même de très grandes villes qui sont tombées. Et ça, donc, c'est un fait politique dont il faut tenir compte. Je pense qu'il en tiendra compte. Mais il connaît aussi, parfois l'inquiétude des gens qui vivent à la campagne vis-à-vis d'idées sur la campagne de gens qui n'ont jamais vu la campagne.
Oui, j'ai compris. C'est une autre vision de l'écologie.
C'est l'écologie naturelle.
C'est pas celle des grandes villes. Il n'a pas l'écologie, qui a gagné dans les grandes villes.
Voilà, c'est qu'il veut. Oui. Voilà, il ne veut pas planter d'arbres là où il y a des pavés, par exemple.
Oui, j'ai compris. Camille Pascal, finalement, Nicolas Sarkozy, vous dites que c'est un coup politique. Oui, c'est un coup politique parce qu'il a finalement.
J'ai dit pour Macron.
Pour Nicolas Sarkozy, pour Emmanuel Macron, c'est ma langue.
Mais
Vous voyez, bon, les deux hommes se confondent parfois. Non,
il y a des similitudes.
Est-ce qu'ils se confondent?
Il y a des similitudes et on voit bien, me semble-t-il, là, et ça va au-delà de la personne d'Emmanuel Macron et de Nicolas Sarkozy, qu'il y a un rapprochement entre sarkozysme et macronisme.
Oui, il y a un rapprochement, c'est évident. Qui a voulu se séparer d'un Premier ministre populaire, est-ce que c'est une preuve d'autorité?
Alors, d'abord, ça rappelle qui est le patron sous la Ve République.
Oui.
Et que le Premier ministre qui commence à faire le malin, à un moment donné.
Il fait le malin, Édouard Philippe, un peu?
Oh, disons qu'il était content de ses sondages, ce qui est normal.
Oui, ce qui est normal, mettez-vous à sa place.
Les sondages, il faut les mépriser quand ils sont hauts. Bon. Donc je pense que, alors après, c'est tout le petit jeu politico-médiatique de monter les uns contre les autres, ça, tout ça est bien connu. D'abord, il fallait un tournant. Il fallait un tournant. Ça, je pense, je ne suis pas dans le secret, Macron a compris qu'il fallait un tournant. Un tournant social et un tournant populaire. Et vous ne pouvez pas faire un tournant sans qu'il y ait de symboles forts. Voilà. Et changer de... Puis peut-être que... Il s'est rendu compte que Nicolas Sarkozy, qui n'avait pas changé de Premier ministre au bout de 3 ans, qui a gardé Fillon jusqu'au bout, avait peut-être eu tort.
Camille Pascal, j'ai une idée pour vous.
Ah ben c'est
l'été des quatre rois. Il faut écrire maintenant l'été des deux présidents.
Ah, je vous vois venir. C'est pas. C'est,
Nicolas c'est, Sarkozy, c'est un... Emmanuel Macron.
Oui, bah écoutez, en tout cas, ils ont en commun une chose.
Oui.
Me semble-t-il, encore une fois, je ne parle.
Oui. Dites-moi.
Ils ont en commun la volonté d'effacer le mandat de François Hollande.
Bien, merci beaucoup Camille Pascal. Merci d'être venu nous voir ce matin, c'était passionnant.